J'aime bien aller prendre mes temps de dévotion dans la nature, surtout quand il fait beau. J'apporte ma Bible, je trouve un endroit tranquille, puis je m'installe, souvent près de la rivière Saint-Charles. Je vais m'asseoir sur un rocher ou sur un tronc d'arbre pour méditer, pour prier, pour connecter avec le Seigneur. On entend juste le bruit apaisant de l'eau, le chant pétillant des oiseaux. Puis c'est comme un seul à seul avec le Seigneur. Puis bon, il y a des sentiers pédestres, il y a des gens qui passent, mais c'est à peine s'ils remarquent ma présence. Et c'est magnifique, c'est un temple à ciel ouvert. Et c'est exactement ce que je faisais l'autre jour, lorsqu'il y a un jeune homme qui passait par là, il s'est arrêté au même spot que moi. Il m'a imité en s'assoyant sur un rocher à quelques mètres. Puis je me suis retourné un instant, une fraction de seconde, pour signaler que je l'avais vu. Puis après, je me suis replongé dans ma lecture biblique. Mais il était là, je n'arrivais plus à me concentrer. J'avais beau relire, ça vous arrive des fois, relire le même verset encore et encore, puis il n'y avait rien qui rentrait. J'étais comme un peu obsédé par la présence de cet intrus. Pourtant, il était à quelques mètres de moi, mais j'avais vraiment l'impression qu'il était dans ma bulle. C'est ce qu'on appelle une distraction majeure. Je voyais seulement deux options. Soit j'engage la conversation avec cet étranger, ou soit je m'éclipse après l'avoir salué poliment. J'ai penché pour la seconde. Je n'étais pas trop sociable à ce moment-là. Puis alors que je m'apprêtais à lui céder la place, « Tiens, tu veux l'avoir, mon spot, mon gars, vas-y, prends-le, t'as gagné. » Il m'a regardé et m'a demandé « Qu'est-ce que tu lis? » « Oh non! Seigneur, c'est pas, je n'étais pas venu pour évangéliser, là, je voulais juste mon petit temps, là, mon petit temps de rafraîchissement personnel. » Vous savez quoi? J'ai fini par réaliser que ce jeune homme était dans la forêt pour la même raison que moi, excepté qu'il n'avait pas de relation avec Dieu. Il m'a dit qu'il n'a jamais lu la Bible et qu'il se sentait le pire des chrétiens. Alors, je lui ai suggéré de commencer en lisant la vie de Jésus dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, parce que c'est Jésus qui nous inspire, n'est-ce pas? Il m'a ensuite posé une excellente question. Il m'a demandé « Quelle est la plus grande leçon que tu as retirée de la lecture de ce livre? » Vous lui aurez répondu quoi? J'étais pas prêt, là. J'ai vraiment apprécié la profondeur de sa question. J'ai pris un petit moment de réflexion, puis je lui ai dit « J'ai appris qu'on n'est pas sur la terre pour rien, mais que le Dieu qui a fait l'univers nous aime et qu'il veut se servir de nous, malgré nos faiblesses, malgré notre fragilité. » Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, tu as créé l'univers, puis tu nous as placés dans ce monde. Malgré notre faiblesse, notre fragilité, tu as placé beaucoup d'espoir en nous, Seigneur. Tu as placé ta confiance en nous. Tu nous as donné, Seigneur, l'autorité sur la nature, sur la création. Et parfois, on a juste de la misère à se lever le matin et à mettre un pied devant l'autre. Mais Seigneur, on te demande ta grâce ce matin, que dans la lecture de ta parole, qu'on puisse se reconnaître, qu'on puisse être guidé par toi, qu'on puisse être fortifié par les vérités qu'on va découvrir en Jésus-Christ. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. Donc, mon message s'intitule « Rafraîchissement en Jésus ». On est dans la série « Rafraîchissement ». Et c'est vrai que je vais vous entretenir sur le plus long psaume de la Bible, le psaume 119. Mais commençons avec un petit extrait, le verset 176. « Je suis errant, comme une brebis égarée. Viens me chercher, moi, ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. » Dans la version français courant. Donc, j'ai choisi de commencer avec le dernier verset du psaume 119. C'est une finale émouvante pour un imposant chapitre de 176 vers. C'est un poème de 176 vers, c'est-à-dire exactement, pour les mathématiciens, 22 strophes de 8 vers chacun. Pourquoi 22? Parce qu'il y a, Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Ted, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun. Je vous épargne le reste. Alors, l'auteur, c'était un homme instruit ou une femme instruite, peu importe, qui a décidé d'écrire un strophe avec, un peu comme une acrostiche. Chaque vers du premier strophe commence par la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet. Alors, donc, c'est comme si dans notre langue, chacune des 8 premières lignes commencerait avec la lettre A. Et ça a du sens. Quand on lit la traduction en français, on ne voit pas cette structure, mais le texte a du sens. Donc, il y a vraiment du génie derrière ça. Ça va être mon seul commentaire un peu littéral sur le psaume. Mais on trouve dans le dernier verset une humble prière de quelqu'un qui reconnaît sa fragilité, mais qui n'est pas sans ressources pour autant, parce qu'il connaît aussi son maître. « Viens me chercher, moi, ton serviteur. » Tout le psaume 119, un peu comme ce verset, tout le psaume nous parle d'une relation vivante avec Dieu, avec en arrière-plan la conscience constante qu'il est possible, voire facile, de se perdre. Un auteur qui s'est penché sur ce psaume a fait l'observation suivante. Il a remarqué qu'à partir du verset 4 jusqu'à 176, tous les versets sont des louanges ou des prières adressées à Dieu. Donc, à la deuxième personne, je te prie, Seigneur, ou je t'implore, viens, secours-moi. Donc, c'est vraiment un psaume très personnel quand on y pense, adressé à Dieu. Sauf un verset, le verset 115. Et je ne l'ai pas à l'écran, mais je vais vous lire. Et c'est comme l'exception, littéralement l'exception, qui confirme la règle. Ce verset dit « Éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe les commandements de Dieu. » Ce que ce petit passage, ce petit verset nous rappelle, c'est qu'il n'y a rien de plus important pour lui que de sa relation avec le Seigneur. L'auteur doit donc repousser les méchants qui menacent de faire intrusion dans son lieu secret et d'interrompre ainsi sa communion avec Dieu. Il n'y a rien qui va venir troubler ce moment spécial avec son Créateur, son Sauveur. Est-ce que je vous ai déjà raconté, puisque je l'ai rencontré des centaines de fois, l'histoire d'une distraction qui aurait pu avoir des conséquences catastrophiques? Alors, j'aime la raconter, puis même si vous l'avez déjà entendu, vous allez rire avec moi. C'était en 2006, mon premier voyage au Guatemala. C'est la première fois que je visitais la famille élargie de mon épouse dans ce magnifique pays d'Amérique centrale. Il y a les Paquettes ici qui ont déjà visité le Guatemala. C'est magnifique. Et le soir de notre arrivée, ils ont voulu vraiment nous faire vraiment un beau baptême de culture. Ils nous ont conduits dans la cité historique d'Antigua. C'était l'ancienne capitale du pays qui avait été détruite par des volcans à une époque, mais qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vraiment un beau site touristique avec des ruines, mais aussi des édifices antiques restaurés. C'était magnifique. Vraiment, là, pour un premier soir au Guatemala, c'était de toute beauté. Ça rappelait un peu le charme du Vieux-Québec, avec moins de lumière. À l'époque, en 2006, pas beaucoup de lumière artificielle. Là. Fait que le soleil se couchait, il était tard. Pendant notre promenade, non seulement avec ma famille rapprochée, mais la parenté, on était un gros groupe, le soleil se couchait, la cité se couvrait d'ombre. À un moment, j'étais attiré par un amuseur public. Hein, je vous parlais d'une petite distraction. Ou c'était peut-être un vendeur d'artisanat. Je me suis éloigné un peu du groupe pour... je suis curieux de nature. Je voulais voir c'était quoi. Ça n'a pas duré très longtemps, quelques secondes. Et je me suis arrêté. Puis, à un instant, je relève la tête. Oh, où est mon groupe? Et là, c'est là que j'ai réalisé l'ampleur du problème. C'était mon premier soir. J'étais jeune marié. Ça faisait un an qu'on était mariés. J'étais un peu ado. Ça sent, hein? Quand on est jeune marié, on est un petit peu adolescent, non? Bon. Pas besoin de vous dire, j'ai paniqué. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on panique? Des choses pas trop raisonnables. Puis là, je parle pour moi, j'ai peut-être couru comme une poule pas de tête, comme dit l'expression. Je me suis mis à courir dans n'importe quelle direction. Puis, pour retrouver mon groupe, mais j'ai pas réfléchi avant de partir. Je me suis mis à courir. Puis là, en courant, je réalisais, je sais même pas à quelle adresse on est censé rester. C'est pour moi qui avait réservé. De toute façon, on n'était pas à l'hôtel, on était hébergés dans la famille. Je connais pas l'adresse. Je ne pourrais même pas dire le nom de la ville. J'ai même pas le nom complet du grand-père d'Alexandra chez qui on va demeurer. À ma connaissance, il n'y a personne qui a de cellulaire dans le groupe, croyez-le ou non. Je suis de cette époque-là. Personne n'avait de cellulaire. Je n'avais pas le numéro pour rejoindre qui que ce soit. J'étais littéralement perdu dans la sombre cité d'Antigua. Bon, c'est pas écrit dans mes notes. Mais c'était ridicule. J'étais vraiment perdu. Puis à cette époque, je baragouinais à peine l'espagnol. J'avais appris « te quiero, mi amor », mais c'était pas mal. C'était assez limité, là, ma connaissance de l'espagnol. J'étais perdu à l'autre bout du monde. Puis, à un moment donné, une lueur d'espoir, en passant devant une boutique de souvenirs, là, une attrape touriste en bon français, j'ai entendu parler français. Il y avait des Québécois. J'ai dit, mais non, j'étais pas sauvé. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent pour moi? Et ils ne savaient pas plus où je demeurais. Donc, j'ai entendu des gens parler québécois. Ça m'a fait un petit peu chaud au cœur. Ça finit bien. J'ai fini par retrouver les membres de la famille Miranda. Quelques minutes d'enfer. Il faut faire attention quand on utilise le mot « enfer ». Mais c'est dans le sens figuré que je l'utilise. Quelques minutes de terreur. J'ai retrouvé la famille. Puis, savez-vous quoi? Ils n'avaient même pas remarqué mon absence. Vous riez. Ah, ben là, je vais m'en rappeler, vous avez ri. Une distraction de quelques secondes. Hein, je vous ai dit, ça n'a pas duré longtemps, une distraction qui aurait pu avoir des conséquences fâcheuses. Remarquez que j'aurais peut-être un ministère itinérant au Guatemala aujourd'hui si vous ne m'avez pas retrouvé. Je serais peut-être. Ouais, OK, bon. Des spéculations. Une distraction qui peut nous faire dévier de notre chemin. L'auteur C.S. Lewis décrivait le fil de nos pensées. Il parlait des distractions qui ont l'air anodines. Ça a l'air bénin à première vue, mais que ça peut devenir un long labyrinthe obscur. Parfois, il y a des prédicateurs qui s'écartent de leur sujet, un peu comme je fais des fois, là. Ça peut devenir un long labyrinthe obscur, fait qu'il faut revenir. Il est très facile de se perdre. Puis, encore, C.S. Lewis considère que ce phénomène courant est assez fort pour voler les meilleures années d'un homme ou d'une femme. Je ne veux pas que mes meilleures années au service du Seigneur me soient volées. Et vous? Non, hein? Pour éviter cela, nous devons reconnaître les distractions qui se présentent et apprendre à rester concentrés, centrés sur la parole de Dieu. C'est un peu l'objectif du psaume 119. Je vais voir avec vous trois types de distractions. Prochaine diapo. Bon, voilà. Avant de les afficher, je vais vous faire réaliser que l'auteur du psaume a cru bon répéter environ 100 fois et plus, j'arrondis, l'importance de la loi divine dans ce psaume. Si vous l'avez lu ou vous l'avez écouté durant la semaine, vous savez que ce psaume est constamment ancré sur ce thème, la loi de Dieu. Et ses synonymes, les prescriptions, les commandements, les instructions, la voix, la parole. Mais c'est des synonymes ou c'est des mots qui visent dans la même direction. Pourquoi répéter encore et encore pendant 176 versets? Ma première explication que j'arrivais à trouver, c'est notre mémoire qui est si prompte à oublier, hein, n'est-ce pas? La mémoire trop courte de l'être humain. Deuxièmement, je me suis dit, peut-être que c'est la nécessité de faire face à mille et une distractions. Ça ressemble à notre époque, n'est-ce pas? Mille et une distractions susceptibles de nous faire dévier du droit chemin. C'est comme si pour avoir le dessus sur ces distractions, l'auteur du psaume 119, pour vaincre les distractions, pour ne pas se laisser déranger par elles, il s'était appliqué à écrire ce psaume. Il s'était mis au défi. Bon, je vais commencer vite, vers avec la première lettre de l'alphabet. Ensuite, et sans savoir que des milliers d'années plus tard, nous allions pouvoir profiter de sa découverte. Et c'est littéralement ça. Cet auteur-là est resté concentré et nous-mêmes, on fait face à mille et une distractions dans notre vie et on peut bénéficier de ce qu'il nous a légué. Puis au fil des 176 versets, il s'attaque à plusieurs distractions sur son passage. Avant de les afficher, on ne les affiche pas tout de suite, mais je vais vous en paraphraser dans mes propres mots. Dans quelques versets, on retrouve ce genre de distraction. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ça, c'est une pensée, une distraction qui peut nous faire dévier de notre objectif réel. Deuxième, il n'y a rien à faire. Y a-t-il du monde en ligne? Je n'ai pas besoin de vous dire que ça peut devenir une énorme distraction. Les gens sont tellement méchants. Ah, j'en peux plus de ce monde. Ça peut être une étrange distraction. On le voit au verset 61-110, que ce n'était pas étranger à la réalité de l'auteur. Ou la dernière de celles que j'ai écrites, c'est « Il y a tellement à faire, je me sens dépassé. » Et là, je pense à toutes les corvées qui m'attendent. Ça peut être une étrange distraction. La première catégorie de distraction, premier type de distraction, ça va être nos relations. Voyez-vous au verset 22-51. Mais nos relations sont si importantes qu'on n'existerait pas sans elles. Alors, vous conviendrez que l'auteur n'avait probablement pas de compte Instagram ou Facebook, mais il s'inquiétait néanmoins de ce que les autres pouvaient dire de lui. Quand il parle de ses adversaires, qu'est-ce que mes adversaires, qu'est-ce que les gens parlent en mal de moi, on peut très bien s'identifier à ce qu'il vit. Il s'inquiétait, puis il fallait qu'il se rappelle à lui-même la ferme vérité concernant la nature de Dieu et qu'est-ce qui intéresse réellement le Seigneur. Qu'est-ce qui intéresse réellement mon Dieu? Mon Créateur m'aime. OK? M'aime, en gros, là. Ton Créateur t'aime. Qu'est-ce que tu peux demander de plus? Si ce n'est d'être revêtu de sa force pour aimer les autres en retour. Et même ceux qui parlent dans ton dos. Je ne sais pas si ça s'adresse à quelqu'un ce matin. Mais si Dieu m'aime, mes soucis, les personnes qui peuvent penser du mal de moi, ça perd un peu de son importance. Deuxièmement, la tentation. Nos tentations sont une source majeure de distraction. Les hommes et les femmes sont confrontés à l'attrait constant de la publicité. Dans l'ancien Israël, les gens étaient aussi attirés par les richesses que nous le sommes aujourd'hui. Jésus parlerait d'une semence tombée parmi les épines, parmi les ronces, dans sa fameuse parabole. Et ça, c'est juste une sorte de tentation, mais elle est très commune, tellement on baigne là-dedans constamment. Ce genre de préoccupation nous prive d'ensoleillement et de nutriments pour finalement étouffer notre vie spirituelle. L'homme et la femme de Dieu doivent se rappeler que les choses sans valeur peuvent plaire aux yeux pour un moment, mais que la parole de Dieu donne la vie éternelle. Mettez ça sur la balance, OK? Plaisir temporaire, vie éternelle. Voulez-vous que je les répète ou c'est correct? Vous avez fait votre choix? En troisième lieu, troisième type de distraction, nos émotions. Nos propres émotions peuvent nous détourner du plan de Dieu. Versets 109-110 nous sont assez clairs. Nos langues modernes ont inventé des mots pour décrire des expériences émotionnelles. Ces mots n'apparaissent pas tous dans les Écritures. Nos ancêtres éprouvaient les mêmes émotions, mais ils les exprimaient différemment. Par exemple, il est évident que l'auteur du psaume 119, a expérimenté ce qu'on appelle aujourd'hui l'anxiété. Je sais que personne ne connaît ça ici, mais non, l'auteur l'exprime dans ses propres mots. Il redoutait le danger réel ou imaginé, ce qui est beaucoup le propre de l'anxiété, c'est de ruminer des choses qui ne sont pas encore arriver qui peut-être n'arriveront jamais. Il pensait souvent à ce que ses ennemis pourraient lui faire endurer. Ah, ça revient souvent. Seigneur, empêche-le de me faire ci, de me faire ça, de me faire... Comment a-t-il maîtrisé son stress? En restant concentré sur la parole de Dieu. Je vous ai dit, c'est le secret. Donc, c'est trois types de distractions. Oui, trois types de distractions communes à tout être humain. Ça prend plusieurs formes, mais ils ont tous le même impact. C'est-à-dire que ce sont des concurrentes pour accaparer notre attention. Yo, il y a de la compétition dans ce domaine-là. Oh! Ce sont des inclinations rivales. Je veux m'incliner envers les voies de Dieu, mais ouf, que des fois je vacille. Ce sont des penchants contraires à la volonté de Dieu. Mais si ça nous attire, si un penchant, c'est naturel. Alors, quelle devrait être notre détermination constante face aux épreuves, aux difficultés, face à la tentation? Ça devrait être la même chose, revenir à la parole de Dieu. OK, mais j'entends des objections, c'est-à-dire comment un livre écrit il y a des milliers d'années, OK, des milliers d'années, peut nous aider à lutter contre des distractions les plus innovantes, les plus attrayantes. Est-ce qu'on devrait imprimer des petits versets bibliques puis les coller partout dans notre logement, dans notre maison, dans notre appartement, pour nous rappeler que Dieu est là? Il y a tellement de distractions, fait que si on en met sur notre frigo, sur notre micro-ondes, des petits versets sur le miroir de la salle de bain, ah, ça va nous aider. J'ai rien contre ça, mon frigo est couvert de versets bibliques. J'ai un frigo chrétien. Que diriez-vous plutôt d'une relation profonde et épanouissante avec Dieu? Pour rester concentré. Une relation vivante, une relation profonde avec Dieu. Donc, dans le psaume, l'auteur va identifier plusieurs distractions, mais un seul objectif vers lequel il s'entraîne à revenir constamment. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs synonymes. Ça me fait penser, dans la culture, et je ne veux pas vous induire en erreur, mais quelqu'un pourrait me confirmer, dans la culture inuit, il y a plusieurs mots, plusieurs synonymes pour décrire la neige. Okay? Neige de diverses textures, de divers moments de l'année. Pas mal, la neige, ça a pas mal toujours la même température, mais peu importe. Il y a divers mots parce que c'est quelque chose d'important dans leur mode de vie, dans leur culture, n'est-ce pas? Quand on habite dans l'Arctique, la neige, c'est le quotidien. Bien, dans le quotidien, notre auteur, lui, il y a une multitude de synonymes pour parler de la parole de Dieu. Alors, dans ce psaume 119, il y a un seul objectif pour revenir toujours à la parole de Dieu. Quels sont les bénéfices de cette quête? Parce que c'est vraiment comme une quête, là. Il déploie toute son énergie là-dedans. S'il fait autant d'efforts pour rester centré sur la parole, bien, quel avantage espérait-il en retirer? Puis, à quel avantage nous, aujourd'hui, pourrons-nous en retirer également? Le premier bienfait qui apparaît, c'est un cœur pur. Un cœur pur. Et c'est clairement dit dans Psaume 119, verset 9, « Quand on est jeune, comment garder une conduite pure? En observant ce que tu as dit, Seigneur. » J'aimerais dire ce matin que vous pouvez aspirer à la pureté et que ce n'est pas une utopie. Vous pouvez aspirer. Donc, si la pureté est accessible, bien, c'est quoi au juste la pureté? En y réfléchissant, je vous dirais que c'est une personne qui se conduit d'une façon digne du royaume de Dieu. J'aime penser que le royaume de Dieu, le ciel, la présence éternel de Dieu, est gardé par des portes et que Dieu garde jalousement l'entrée pour aucune impureté rentre dans son royaume. Parce qu'une petite impureté pourrait tout gâcher. Alors, La pureté, c'est une personne qui se conduit d'une façon digne du royaume de Dieu. Aucune impureté peut rentrer dans la présence du Dieu saint. Un cœur pur, sans saleté ni ordure. C'est ce que Jésus a incarné pour nous, n'est-ce pas? Quand il dit Matthieu 5:8, Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et même dans 1 Timothée 1:5, l'apôtre Paul va dire « Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. » Le but du commandement. Alors, on n'est pas loin, là. Je pense qu'on a une idée juste quand on dit que la parole de Dieu va avoir un bénéfice de nous guider, de nous accompagner dans le développement d'un cœur pur, dans la purification de notre cœur, parce qu'on n'est pas parfait, au loin de là. La purification, le retour à un cœur pur. Certains d'entre vous ont endossé la croyance selon laquelle vous êtes incapable de changer. Est-ce que vous avez essayé de méditer la parole de Dieu tous les jours et de demander au Saint-Esprit d'opérer lui-même la transformation? Au verset 29, on ne l'a pas, mais un peu plus loin, dans le même passage, l'auteur demande au Seigneur la grâce de suivre sa loi. Donc, il a compris quelque chose, c'est que l'esprit humain est plein de bonne volonté, vous le savez comme moi. L'esprit est plein de volonté, mais la chair est... Oui, la chair est très faible. Alors, il demande, il implore l'aide de Dieu. C'est gentil. Il implore l'aide de Dieu. Donc, moi, je vois là la grâce ultime, c'est-à-dire le Dieu qui juste, le Dieu qui détermine le bien et le mal, qui est la référence ultime, vient à notre secours. Parce que sa loi nous condamne quand on la brise. Sa loi est telle qu'elle. Les 10 commandements, tels qu'elle. C'est dur de s'opposer aux 10 commandements. Quand on la brise, Dieu, dans son amour, nous sanctifie et nous rend capables de pratiquer sa loi. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que le Dieu qui a prononcé cette loi va nous rendre capable, d'une part, va nous pardonner nos manquements et va nous rendre capable de la pratiquer par son esprit qui vit en nous. C'est juste invraisemblable, humainement parlant. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand monde ici qui ne veut pas avoir un cœur pur. Je pense, en tout cas, ça doit nous attirer, nous inspirer. Un deuxième bienfait de rester centré sur la parole de Dieu. Un deuxième bienfait, c'est que Dieu nous accorde sa direction. Dieu nous accorde sa direction. Vous étiez là peut-être il y a quelques semaines lorsque Pasteur Simplice nous présentait le psaume 32 avec ce verset classique où Dieu dit « Je t'instruirai, je te conseillerai, hein? Je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai le regard sur toi. » Mais comment, Seigneur, tu vas le faire? Oui, je veux être instruit, oui, je veux être conseillé, mais comment? L'Écriture est là. Mais comment l'appliquer à ma situation? OK. Bien, je vois une piste dans le passage suivant, versets 29 à 32. Et Pasteur Simplice en a bien parlé aussi il y a quelques semaines en disant que la parole de Dieu doit devenir une révélation dans notre vie. Tiens-moi loin des pratiques mensongères. Accorde-moi la grâce de connaître ton enseignement. J'ai choisi le chemin de la vérité. Je me conforme à tes décisions. Je m'attache à ce que tu m'as ordonné. Seigneur, ne me laisse pas dans l'humiliation. Je cours sur le chemin que tu m'ordonnes, car tu m'as ouvert l'esprit. Amen. Moi, je ne vois pas ici un croyant qui se traîne les pattes, qui vient à l'église à reculons. Hein? On voit quelqu'un de volontaire. Il s'engage envers et contre tout. J'ai choisi. Pourquoi? À cause de l'œuvre que Dieu a faite dans son cœur et dans son esprit. Hein? Je cours sur le chemin que tu m'ordonnes, car tu m'as ouvert l'esprit, car tu as élargi mon cœur, dans d'autres traductions. Ça, on peut le rechercher. Ça, on peut le rechercher. Chercher que Dieu élargisse notre cœur, chercher sa face, chercher qui nous ouvre l'esprit. Et je crois qu'il va le faire. Donc, rester sur la parole de Dieu, rester centré, va nous aider dans les situations délicates. Et je crois qu'à la longue, on va être amené à agir plutôt que réagir. Je vais vous expliquer un peu ce que ça signifie pour moi. À vrai dire, dans Deutéronome 28, 13, Dieu dit que son peuple va être la tête et non la queue. Et moi, c'est un peu ce que je vois, l'idée d'agir plutôt que simplement réagir. Nos réactions sont émotionnelles, mais nos actions sont spirituelles, quand nous marchons par le Saint-Esprit, bien sûr. Je vous donne un exemple. L'an dernier, lors d'une rencontre d'équipe dans mon travail, une collègue nous a recommandé une chanson qu'elle trouvait super inspirante. Je suis allé l'écouter et j'ai été dégoûté par les paroles. La musique était douce, là, mais les paroles étaient très offensantes, ridiculisant expressément la foi des chrétiens. J'en revenais pas. J'étais vraiment troublé. Je me demandais si je devais lui en parler. Est-ce que je devrais lui faire part de mon sentiment? Ça m'a offensé, cette chanson-là, qu'elle pensait me faire du bien. Pourtant, elle savait que j'étais chrétien. Comment elle n'a pas vu que ça ne serait pas une source d'inspiration pour moi, mais que ce serait au contraire blessant? Honnêtement, je pense qu'elle n'était pas consciente. Là. Elle appréciait la musique, puis elle ne s'était pas vraiment rendu compte du contenu, comme ça arrive bien souvent quand on accroche sur une chanson à la radio. Mais je vous ai dit que ça m'avait comme heurté. Quand je suis heurté, j'ai comme le réflexe de vouloir corriger les choses, en parler poliment, mais de ne pas garder pour moi. Il me semble que c'est une bonne hygiène de vie. Là. Mais je risquais d'être déconcentré par cet incident. Mais au fond, quelle était la volonté du Seigneur? C'est ça qu'il faut se demander. Quelle était la volonté du Seigneur? Comment tirer le meilleur parti de ce moment en agissant pour Dieu plutôt que de réagir de façon émotive? Hein? Je veux agir, je ne veux pas juste réagir puis faire ma vierge offensée. Une expression. Donc, je ne veux pas grimper dans les rideaux. Je vais être franc. Donc, voici l'idée qui m'est venue. Puis je rends grâce à Dieu. J'étais allé voir ma collègue, j'ai dit, j'ai écouté ta chanson et j'ai remarqué que ça parlait de Jésus. C'est vrai. Jusqu'à là, je ne mens pas. Est-ce que tu es croyante? Je savais que ma question pouvait sembler stupide, mais je voulais vraiment ouvrir le dialogue. Tu sais, ta chanson, elle se moquait de Jésus. Non, ta chanson, elle parlait de Jésus. Est-ce que tu es croyante? Puis ensuite, je lui ai remis un Nouveau Testament, puis j'ai dit, lis ça, tu vas découvrir toi-même la vie de Jésus. Puis elle était ouverte, elle était contente, là, elle a accepté mon cadeau. C'est pas astiné. Donc, ce qui aurait pu générer un conflit est devenu une porte ouverte. Seigneur, aide-nous à agir plutôt qu'à simplement réagir. Mais c'est vrai qu'il y a une opposition humaine et spirituelle à tous ceux qui veulent suivre la voie de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a rencontré ces obstacles, les mêmes obstacles, et il a déterminé que nous pourrions les surmonter à notre tour. Quand je dis que le Seigneur nous fait confiance, puis il a déterminé, puis c'est pour ça qu'il nous a enseigné, il a pris le temps de nous enseigner sa structure, ses instruments, ses outils pour faire face aux obstacles. J'aime cette traduction du pasteur Eugene Peterson, qui nous a quittés malheureusement, mais la traduction en anglais, « The Message », c'est plutôt une paraphrase, mais assez vivante. Elle revisite les passages des Écritures. À vrai dire, il en a fait une traduction complète de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. Et j'aimerais lire avec vous, je l'ai traduit moi-même en français, du passage dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 6. Lisons ensemble. « Le monde n'a pas de scrupules. C'est la loi du plus fort. Le monde ne se bat pas de manière loyale. Mais nous ne vivons pas et ne menons pas nos batailles de cette façon. Nous ne l'avons jamais fait et nous ne le ferons jamais. Nos instruments de base ne sont pas des outils de marketing ou de manipulation, mais ils servent à démolir toute cette culture profondément corrompue. Nous utilisons nos puissants outils divins pour briser les philosophies déformées, abattre les barrières érigées contre la vérité de Dieu, replacer chaque pensée, chaque émotion et chaque impulsion dans la structure de vie façonnée par le Christ. Nos outils sont prêts à l'emploi pour déblayer le terrain de toute obstruction et construire des vies d'obéissance jusqu'à la maturité. Ce que je retiens de cette paraphrase, bien sûr, vous pourriez le relire en français puis voir qu'il a tenté de transmettre le cœur du message. En tant que chrétien, on n'est peut-être pas intimidant, hein, imposant, mais on est efficace là où ça compte vraiment. Et ce que je comprends ici, là où ça compte vraiment, c'est dans notre témoignage à la vérité en Jésus-Christ. Je m'approche de ma conclusion, j'inviterai même les musiciens à s'avancer, puis à jouer tout doucement. Comment être efficace là où ça compte vraiment? Pas distrait, là, pas éparpillé à gauche et à droite. Mais je crois que le psaume 119 nous offre, si on prend le temps de s'abreuver à sa source, un doux rafraîchissement en Jésus. Il nous invite à mettre de côté toute distraction. Je dis bien toute distraction et à revenir aux Écritures. Et mieux encore, car je ne crois pas me tromper en disant qu'un psaume qui fait l'éloge de la parole de Dieu écrite a pour effet de nous rappeler notre amour pour la parole de Dieu faite chair, Jésus-Christ. Peut-être que ça vous rappelle dans Jean chapitre 1. Notre Dieu est un Dieu qui parle. C'est une caractéristique, c'est une bénédiction. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Il a parlé à Adam, il a parlé à Abraham, il a parlé à Moïse sur la montagne, il a parlé à David et à combien d'autres auteurs des psaumes. Puis, il nous a parlé à nous, en son Fils Jésus. C'est un peu ce que le psaume 119 soutient. Et je vous invite à rester avec moi encore quelques minutes. Dans le psaume 119, naturellement, il y a 176 versets. Il y a beaucoup de métaphores, beaucoup de figures de style, beaucoup d'images qui sont employées. Mais une image qui revient au verset 33, au verset 101, c'est que la loi de l'Éternel est comparée à un chemin, voire le chemin par excellence. Elle est présentée également, sa parole, comme une source de vie. Je mets l'accent sur le mot « vie ». Verset 50. Puis le verset 142 déclare « Ta loi est la vérité ». Je mets l'accent sur le mot « vérité ». Dans ce psaume, quand on prend le temps vraiment d'aller chercher ces ancrages, la parole de Dieu est appelée le chemin, la vie, la vérité. Ce que Jésus lui-même s'est attribué dans Jean chapitre 14 en disant à ses disciples « Je suis le chemin ». La vérité et la vie. Donc, ce n'est pas juste un texte ancien, mais ça nous parle de notre Sauveur Jésus. C'est vivant pour nous. La parole est aussi la lumière du croyant. C'est dans le psaume 119 qu'on trouve ce fameux passage. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Seigneur, tu es la lumière. Ta parole est ma lumière. Voyez comment on ne peut pas dissocier le Seigneur Jésus de sa parole. Puis le verset 174, et lui, je l'ai à l'écran, s'exclame, « Je soupire après ton salut éternel et ta loi fait mon plaisir. » Et je vous ai dit un petit peu que j'aimais l'hébreu. Mais le mot « salut » en hébreu, ça se lit de droite à gauche en passant. C'est littéralement « Yeshua ».« Yeshua ». Ceux qui ont peut-être l'oreille habituée, vous avez entendu le nom « Yeshua », qui est le nom de Jésus en hébreu, en araméen. Il y a une ça, une sonorité similaire aussi. Donc, mais le nom de Jésus, ça signifie salut. C'est le sauveur, celui qui est venu pour nous sauver. Et clairement que le psaume qu'on a lu ce matin nous pointe vers Jésus. Parce qu'on soupire après le salut, mais on soupire encore plus après une relation personnelle avec Dieu. On n'est pas juste sauvé du mal pour avoir une vie tranquille et sans difficulté. On est sauvé de nos péchés pour pouvoir être réconcilié avec Dieu, avoir une relation avec Jésus. Amen. Je vous inviterai à vous lever. Juste en terminant, je veux déclarer que Jésus est le Fils et la parole éternelle de Dieu. Et c'est vers lui qu'on veut tourner nos regards ce matin. Et ce Jésus a accompli toute la loi de Dieu par sa vie parfaite. Donc, il a enlevé tout un fardeau de nos épaules. Peut-être, tout à l'heure, je parlais et tu te sentais indigne. Tu disais, oui, c'est peut-être de moi qu'il parle. Je ne suis pas à la hauteur. Non, ce n'est pas ça que tu dois retenir. Jésus a enlevé le fardeau. Il a accompli la loi, puis il a rendu la loi inutile en mourant pour tes péchés. OK? Pourquoi qu'on aime autant la loi de l'Ancien Testament? Ça vient du fait que Jésus l'a accompli pour nous. C'est pour ça que ce n'est pas lourd, ce n'est pas décourageant. Il veut déverser en nous l'esprit de la loi, l'esprit de Dieu, de vérité. Et je vous laisse avec ce verset dans 1 Jean 3, 23 qui dit « C'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. » Et Jésus déclare « Si vous m'aimez, gardez mes commandements et recevez mes instructions parce qu'il veut nous accorder le repos intérieur, ce rafraîchissement si essentiel. » Merci beaucoup de votre attention. Louons le Seigneur ensemble.